Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur. Une émission en direct de l'espace Cardin à Paris grâce aux équipes conjointes de France Culture et du Théâtre de la Ville. Au menu du jour, comme chaque dimanche, une madeleine. À 12h15, Matteo Caranta recueille les souvenirs culinaires de personnalités. Cher Matteo, bonjour.
Bonjour Caroline.
Qui donc avez-vous entendu cette semaine ?
Eh bien, c'est Patricia Petitbon qui nous a confié sa madeleine qui se niche sur les rives de la Méditerranée, vous verrez.
La soprano Patricia Petitbon. Et pour notre plat du jour, nous vous avons concocté un festin. Passum, gustum de praecoquis, patina de asparagis frigida et apoternum. J'espère que mon latin n'est pas trop lointain. Autrement dit, vin paillé en apéritif, entrée aux abricots, caille sur omelette froide aux asperges, dessert de semoule au lait et aux fruits, à moins que vous préfériez des gustum de cucurbitis farcilibus, des courgettes farcies, un porcellum laureatum, conchon de lait couronné de feuilles de laurier, et pour finir, une alitère dulcia, cake aux amandes et au miel. C'est peut-être ce que mangeait un homme resté dans l'histoire comme le protecteur des couples qui a donné son nom à une fête célébrée tous les 14 février, comme aujourd'hui la fête des amoureux. Elle est connue aujourd'hui comme la fête des amoureux. Cet homme était évêque et il s'appelait Valentin de Terni. Il vécut au 3e siècle de notre ère. Mais que mangeait Valentin et que mangeait Saint-Valentin ? C'est notre sujet aujourd'hui.
La gustatio sera constituée d'une petite entrée aux abricots. Oh, rien d'exceptionnel, mais ils viennent directement de Phénicie. Pour le plat de résistance, je vous propose un canard. Il a simplement été rôti à la broche, mais c'est la sauce qui va vous plaire le plus. Elle est faite avec du poivre, de l'origan, du miel, du vinaigre et du garum. Ajoutez à cela de la racine de colocase et des foies de volaille, elle en devient fantastique. Le tout sera accompagné d'une petite purée de légumes. Profitez, vous êtes mes invités et ma maison est vôtre.
Et notre invité à nous ce midi dans Les Bonnes Choses, c'est Dimitri Tillois d'Ambrosie. Bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Vous êtes le bienvenu dans Ces Bonnes Choses. Vous êtes historien de la Rome antique, auteur de l'Empire romain par le menu paru aux éditions Arquet, et vous êtes le commissaire scientifique d'une exposition dont on vient d'entendre un extrait en forme virtuelle. L'exposition Une salade César point d'interrogation, la cuisine romaine de la taverne au banquet, actuellement au Lugdunum musée et théâtre romain de Lyon, enfin actuellement, disons, en visite virtuelle, en attendant bien sûr la réouverture des portes du musée. D'ailleurs, une salade César, est-ce que vraiment César mangeait de la salade qui a donné son nom ?
Alors, contrairement à ce que l'on croit bien souvent, et c'est justement sur cela que joue le titre de l'exposition, la salade César n'a absolument rien d'antique. Ce nom de salade César, en réalité, vient des années 1920-1930 aux États-Unis. Il s'agit d'un cuisinier d'origine italienne, immigré donc en Amérique du Nord, qui s'appelait Cesare Cardini, et qui en fait, par sa célèbre recette de salade, s'est fait connaître, il lui a donné son nom, avant de se diffuser dans le monde entier. Mais cette salade est devenue tellement célèbre que beaucoup de légendes et de variants de l'histoire circulent à son sujet.
Le premier nom par lequel nous entrons, César, deuxième nom par lequel nous entrons et qui nous a donné donc l'idée de cette émission, c'est donc Valentin de Terni. Partir de Valentin de Terni pour parler de la cuisine romaine, c'est remonter au 3e siècle, au temps de l'Empire romain. Valentin de Terni, on sait de lui que c'était un évêque. On sait que les Romains d'ailleurs ne mangeaient pas tous la même chose selon leur position sociale, Dimitri Tillois d'Ambrosie. Alors que mangeaient les évêques ? Que mangeait Valentin de Terni ?
Alors Valentin de Terni est avant tout un habitant de l'Empire, donc à ce titre, il mange évidemment comme ses contemporains. Avec l'avènement du christianisme, notamment à l'époque de Constantin et la fin de l'Empire, les évêques appartiendront davantage aux catégories sociales élevées, donc mangeront davantage ce qui relève de leur rang. Au IIIe siècle, au milieu du IIIe siècle, puisque Valentin de Terni a vécu sous le règne de Claude II, les évêques appartiennent encore à des catégories plutôt modestes. Et donc, à ce titre, hein, le menu qu'on a entendu justement en introduction pourrait tout à fait correspondre à ce que mangeait donc un évêque de cette époque.
Est-ce qu'il participait à des orgies, puisque je crois que le terme orgie a une origine religieuse?
Oui, tout à fait. Ce terme d'orgie que l'on galvaude hein, bien souvent et qui hante l'imaginaire au sujet du banquet antique, hein, en fait, est bien loin de ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire d'un repas où on assiste à une débauche de nourriture. Une débauche également sur le plan de la licence sexuelle. En réalité, il s'agit effectivement d'un terme ayant une connotation religieuse. L'orgie est un moment en fait de beuverie, une beuverie par laquelle on entre en communion avec la divinité, et en l'occurrence notamment Dionysos. Donc c'est en effet l'origine hein, de ce terme qui aujourd'hui a été popularisé par la BD notamment ou le cinéma.
Et j'ai vu qu'au temps de Valentin de Terni, entre le 13 et le 15 février, existaient des gigantesques festins appelés Lupercales. Alors que vous nous parleriez de ces Lupercales.
Donc cette fête des Lupercales, effectivement, correspond dans le calendrier de l'époque romaine hein, à notre 14 février. Donc ces Lupercales sont une des grandes fêtes hein, du calendrier romain qui, je le rappelle, hein, comporte un tiers de l'année à peu près qui est férié, qui est marqué par des fêtes importantes. Et durant ces fêtes, effectivement, les banquets ont une importance considérable. Banquets publics, mais également des banquets privés. Alors ces Lupercales, le nom même de Lupercales renvoie à un lieu essentiel de l'histoire de Rome, qui est la grotte du Lupercal, sur les pentes du Palatin, en contrebas du Palatin, où, selon la légende, la louve aurait recueilli Romulus et Rémus. Et donc, le 14 février a eu une fête, en effet, où les prêtres qu'on appelle les Luperques, justement, donc liés à cette légende, à cette histoire, et qui sont consacrés au dieu Faunus, le dieu faune, dieu champêtre, dieu protecteur des troupeaux, sacrifient un bouc, qui est donc l'animal associé à cette divinité, avant que deux jeunes hommes, vêtus de peau de bouc, ne traversent la ville en courant, fouettant de lanières les femmes qui se trouvent sur leur passage, afin de leur apporter la fécondité, notamment pour enfanter. Donc on est vraiment dans une fête liée à la fécondité, liée à l'abondance, à la fertilité, mais par contre, on n'a pas encore, évidemment, la dimension romantique et sentimentale qu'on peut lui prêter, enfin qu'on peut prêter aujourd'hui à la Saint-Valentin.
Est-ce que ce serait une origine biaisée de la Saint-Valentin?
Donc en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'au 5e siècle, le pape décide de mettre fin à cette fête très populaire, justement, en imposant le culte de Saint-Martyr, dont Saint-Valentin, justement. Et plus tard, à l'époque médiévale, des légendes, notamment la légende dorée de Jacques de Voragine, vont évidemment l'associer au Saint-Patron des amoureux. Donc c'est une construction tardive, évidemment, par rapport à l'époque antique.
Dimitri Tillois d'Ambrosi, quel rapport les Romains entretenaient-ils avec la nourriture? Est-ce que c'était un rapport de plaisir? Est-ce que c'était un rapport de contrôle de soi, du corps? Un rapport hygiénique? Qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est un rapport qui est très ambigu et qui tient dans la société romaine la même place que l'alimentation tient aujourd'hui. C'est-à-dire, en effet, la nourriture est source de plaisir. Dans l'extrait qu'on a lu justement en introduction, on insiste sur l'origine des produits. Et pour les Romains, les gourmets en tout cas, et notamment ceux de l'élite qui ont les moyens d'accéder à ces produits, l'origine géographique de produits parfois lointains, on fait venir des fruits d'Orient, de Syrie par exemple, des prunes.
Surtout du temps de l'Empire romain.
Oui, tout à fait.
Dans les conquêtes.
Tout à fait, à l'époque de la paix romaine, où la prospérité permet de faciliter ces échanges. Donc on fait venir des fruits d'Orient, des poissons sous forme de salaisons qui viennent du sud de la Méditerranée, on importe des salaisons de Gaule. Donc finalement, l'Empire apparaît comme un immense grenier, en quelque sorte, hein, où puiser des ressources alimentaires qui vont garnir les tables de l'élite romaine. Et donc, un autre point, c'est qu'en fait, avec l'essor des conquêtes, avec l'essor du luxe de la table, face à cette attraction pour la satisfaction du goût, émerge un discours moral où finalement, les vieilles valeurs romaines qui appellent au contraire à l'austérité, à la sobriété, à la mesure, qui est tout à fait fondamentale, jugent évidemment d'un regard très critique ces sophistications alimentaires. Alors que dans l'imaginaire des Romains, le citoyen romain des origines mange simplement des légumes bouillis au coin du feu. Donc on a une véritable ambiguïté qui s'affirme à l'époque impériale.
Et tout le contraire de ce qu'on a, nous, en images qui sont véhiculées par les fresques romaines, par un certain nombre de films, comme le Satyricon de Fellini.
Quelle merveille ! Des grilles, des poulets de gras, des chaisiers de poisson, des colliers de saucisses, des pigeons de tendre, des nodules, des escargots, des oignons farcis, du jambon et du gris. Contre les malchions.
Trimalcio,
Fiction dans le Satyricon, un roman satirique attribué à Pétrone, Trimalcio, ancien esclave affranchi, figure du nouveau riche qui adopte avec boulimie tous les codes de la haute société romaine. Eh bien, Trimalcio, on le voit dans cette longue scène de la cena, c'est-à-dire le dîner romain, organise des somptueux festins pour affirmer son rang, pour épater ses convives. Est-ce que ça se passait comme ça, vous qui y étiez, Dimitri Dillois d'Ambrosie? Est-ce que le banquet était la pratique commune? Est-ce que c'est l'image d'Épinal? Qu'est-ce qu'on y mangeait? Qu'est-ce qu'on y buvait? Est-ce que c'était une débauche comme on le voit dans cette longue scène du film de Fellini?
Alors évidemment, quand on parle du banquet à l'époque romaine, cette fameuse scène du Satyricon de Fellini, qui est en fait évidemment l'adaptation cinématographique du Satyricon de Pétrone, qui est une œuvre romanesque de la fin du 1er siècle, c'est l'image qu'on a avant tout du banquet. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit en réalité plus d'une parodie de banquet de l'élite, c'est-à-dire où l'auteur se moque justement de certaines sophistications, de certaines propensions à la sophistication dans la préparation, dans la présentation notamment des plats. Il y a un véritable spectacle. Finalement, ce banquet est plus un spectacle que vraiment un banquet où on prend du plaisir à goûter, puisque l'accumulation de mets suscite presque le dégoût. Quand on lit l'œuvre, on a une impression d'écœurement tant les mets s'accumulent. Bon, en revanche, malgré tout, voilà, c'est une parodie, mais à travers laquelle on peut lire quand même, après évidemment en les ramenant à leur juste mesure, certaines tendances qui sont importantes pour comprendre la table des Romains. Donc effectivement, le banquet, c'est le moment de sociabilité par excellence des élites de l'époque romaine. Élite politique, élite sociale évidemment. Donc c'est un moment déjà de convivialité. Et l'hospitalité est une valeur fondamentale pour les élites d'époque romaine, et qui passe notamment par l'invitation, qui est un véritable rituel auquel il faut se soumettre. On invite, on est invité en retour, on est vraiment dans une relation de don contre don. Et par exemple, le passage au terme juste avant, puisqu'on va au terme donc dans l'après-midi, le repas se prend généralement en fin d'après-midi, vers 4 heures à peu près, puisque le reste de la journée, on mange assez peu finalement, c'est l'endroit idéal pour espérer être invité. Parce que celui qui mange seul est vu comme quelqu'un d'asocial, qui a peu d'influence. Donc il y a vraiment l'idée que le banquet est un espace de représentation sociale aussi, et qui permet d'affirmer également ses réseaux sociaux. Alors ensuite, lors du banquet, évidemment, il s'agit de faire plaisir à ses invités, notamment par le nombre de services, par la qualité des mets qui sont apportés, par leur présentation, par le talent des cuisiniers. Et donc, un individu qui présenterait des repas trop maigres ou on manquerait de nourriture serait vu comme avare, et évidemment, cela est très mal perçu et est moqué même par les satiristes d'époque impériale. Alors le banquet, on vient d'assister à un extrait des services qui sont apportés lors du banquet de Trimalcion. Le banquet est composé de plusieurs grands services, au nombre de trois, qui peuvent d'une certaine manière se rapprocher de nos repas actuels. On a la gustatio, donc ce sont des entrées constituées d'huîtres, d'escargots, de légumes par exemple, de laitue notamment, accompagnée de vinaigre, qui permet de stimuler l'estomac et de préparer l'estomac à accueillir toutes les nourritures et les plats de résistance qui suivront ensuite. Viennent ensuite donc ce qu'on appelle les primae mensae, c'est-à-dire les premières tables, les premiers services, où là sont servis des viandes, des poissons, des volailles en sauce, et des sauces qui, justement, on le voit dans le recueil de l'art culinaire d'Apicus, comportent de nombreux ingrédients, notamment des produits aromatiques. Parfois, on peut en avoir une dizaine qui sont mélangés au sein de la même sauce, et on est dans une explosion de saveurs où le cuisinier doit justement ajuster au mieux tous ses produits. Et viennent enfin donc les secundae mensae, c'est-à-dire donc les desserts, les seconds services. Et le dernier, où il s'agit donc de fruits essentiellement, éventuellement de gâteaux, mais de gâteaux assez simples. Il n'existe pas de haute pâtisserie à l'époque romaine, des gâteaux de semoule, de céréales par exemple, accompagnés de vin mielé, qui permet donc d'agrémenter le repas.
Et tout ça, on le mangeait dans le triclinium, la salle à manger où les hommes et les femmes dînaient ensemble, effectivement étendus sur des lits, sur des banquettes. Ça, c'est pas une image d'Épinal?
Non, donc le triclinium, qui est en effet la salle à manger, c'est une des pièces les plus importantes de la domus, donc la maison romaine, où c'est une pièce d'apparat en fait, puisque les fresques, les mosaïques contribuent aussi au plaisir du repas et peuvent alimenter les discussions. Et donc en effet, dans cette pièce triclinium, il y a trois lits, clinaï en grec, donc ce sont des lits de table sur lesquels on s'allonge effectivement, jusqu'à trois, nous disent les auteurs, donc trois personnes par lit, et Plutarque, au premier siècle, nous dit que le repas idéal, c'est le repas où il y a neuf convives. Donc en effet, on mange allongé et on prend les mets qui sont prédécoupés avec la main droite, sinon la main gauche porte malheur, pour ensuite donc se nourrir. Et effectivement, les femmes peuvent tout à fait être allongées auprès des hommes. Mais il y a une évolution, puisqu'à l'époque républicaine, cela n'était pas totalement toléré. C'est à l'époque impériale, fin de la République, époque impériale, où on assiste à une évolution où les femmes peuvent enfin prendre place aux côtés des hommes.
Mais sinon, le quidam, celui qui n'a pas toujours la chance d'être invité dans ces banquets, où il fallait quand même montrer patte blanche et être plutôt privilégié, Dimitri Tillois d'Ambrosie, la majorité donc des Romains, eh bien, ils mangent chez eux, mais ils mangent aussi dans des tavernes. Il existait déjà une sorte de fast-food, de snack, où on mangeait au comptoir. Comptoir de pierre qu'on peut voir d'ailleurs dans l'exposition virtuelle au Look de Noom en ce moment.
Donc en effet, le repas qu'on vient de décrire dans le triclinium concerne une minorité. Et la majorité de la population dépend effectivement essentiellement des lieux de restauration publique, qu'on appelle kaopona ou popina en latin. Et donc, dans leur demeure déjà, bien souvent des petits appartements, ils n'ont pas de structure de cuisson. Il n'y a pas de cuisine et puis les structures en bois font qu'il est dangereux d'utiliser des braseros. Donc effectivement, ces tavernes sont tout à fait fondamentales pour l'alimentation du plus grand nombre. On les connaît bien sur le plan archéologique. On en a retrouvé encore récemment à Pompéi lors des dernières fouilles. Et donc on peut y servir des ragoûts, des plats assez consistants qui vont permettre d'avoir un apport calorique suffisant pour la journée. On peut y consommer des charcuteries, des salaisons, du vin par exemple. Et évidemment, il y règne certainement une ambiance très très animée.
Je vous avais promis une surprise. La voilà. Juste avant que nous allions boire un grand cru de compagnie, l'illustre poète Martial viendra nous dire certains de ses vers. Je lui ai demandé s'il aurait l'amabilité de se joindre à nous. Et quand je lui ai dit quels invités il y aurait, il a accepté immédiatement mon invitation.
Il est 12h16 sur France Culture, vous écoutez Les Bonnes Choses, c'est l'heure de la Madeleine. Et nous, Matteo Caranta, qui donc avons-nous invité à notre table ce midi?
Eh bien, c'est Patricia Petitbon qui s'est mise à table, la soprano coloratour, qui chante évidemment l'amour sous toutes ses formes, comme c'est souvent le cas à l'opéra. Des amours terribles, puisqu'elle a incarné Eurydice dans l'Orphée Eurydice de Gluck, ou dans le rôle de Lulu de Berg sous la direction d'Olivier Py. Des amours frivoles, si on pense à son interprétation de Manon, de Massenet, ou encore des amours vengeresses, puisque juste avant le deuxième confinement, Patricia Petitbon devait interpréter la sombre Salomé de Richard Strauss au Théâtre des Champs-Élysées. Alors pour sa Madeleine, Patricia Petitbon nous a parlé avec amour, encore une fois, d'un des plats de son enfance, un plat qui aurait pu peut-être être mangé dans la Rome antique.
Ma Madeleine, c'est la cade. C'est une spécialité de la Seine-sur-Mer et de Toulon. Il y a que deux villes qui font la cade, qui est une crêpe de farine de pois chiche, soit sucrée, soit salée, cuite au feu de bois. Et c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée enfant. Et quand je reviens à la Seine-sur-Mer, donc dans le Var ou à Toulon, je me précipite vers 6h du soir pour manger la cade, ou en fin de matinée. C'est vraiment une institution et tous les petits-enfants, les grands-parents, tout le monde connaît la cade. Moi, toute la famille mangeait la cade. Et pour moi, c'est un souvenir de ce moment partagé avec mes grands-parents, ma famille italienne, tout le monde en fait. C'est aussi le plat du pauvre, parce que c'est très protéiné, et donc beaucoup de familles qui n'avaient pas aussi d'argent pour manger des choses plus conséquentes, se nourrissaient de cette énorme crêpe cuite au feu de bois, faisaient la cade, quoi, voilà. Alors on demande, tu veux sucré ou salé? Ah ben moi je veux du sucre. Souvent je prenais avec le sucre, donc. Et là, on ne peut pas en manger tout de suite parce que c'est assez brûlant, ça brûle les doigts. L'odeur, c'est une odeur de Méditerranée, c'est une odeur du pois chiche qui s'évapore, de la farine aussi, de blé, peut-être d'huile d'olive un petit peu aussi. C'est une couleur un peu jaunâtre avec quelques côtés où il y a un peu de brûlure, un peu de noirceur aussi. C'est grillé. Et puis, ça a une texture un peu farineuse. C'est comme si on avait une dizaine de crêpes les unes sur les autres, voyez, en gros. Mais c'est aussi la cousine du falafel et de toutes ces recettes, voyez, à base de pois chiches. Mais c'est onctueux. Et puis, on est bien rassasié, en fait. Une fois qu'on a mangé la cade, il faut attendre un petit peu, quelques heures avant de manger autre chose.
Recette roborative donc de la soprano Patricia Petitbon. Alors Dimitri Tillois d'Ambrosi, est-ce que les Romains auraient pu manger cette cade de Toulon? Le pois chiche, je crois, c'était très prisé par les Romains.
Oui, les légumineuses et notamment les pois chiches, on pourrait ajouter aussi les fèves par exemple, tiennent une place fondamentale dans l'alimentation au quotidien. On en fait en effet des bouillies, des sortes de purées qui accompagnent bien souvent les plats. Donc les légumineuses sont même considérées comme la viande du pauvre, hein, qui sont d'un apport énergétique et en protéines assez important.
Alors on va parler des recettes quand même, hein, de ce qu'on trouve notamment dans cette exposition dont vous êtes le commissaire scientifique. Une salade César à l'Obdounoum au musée de Lyon. Toutes les recettes romaines qui sont présentes dans cette exposition sont en fait tirées d'un livre latin de cuisine, un livre de gastronomie romaine écrit par la cuisinière Mireille Cherubini, elle-même inspirée, vous l'avez cité tout à l'heure, Dimitri Tillois d'Ambrosi, de l'art culinaire d'Ere Coquinaria, le premier livre de recettes connues, dont voici une recette.
Nettoyez le porcelet, videz-le par la gorge, troussez-le par la nuque. Avant de le faire saisir, ouvrez l'oreille sous la peau. Remplissez de farce de Terentius une vessie de bœuf au col de laquelle vous adapterez un chalumeau d'oiseleur par où vous ferez pénétrer dans l'oreille tout ce qu'elle pourra contenir. Fermez par un papier et agrafez. Préparez une autre farce. Pour ce faire, pilez du poivre, de la livrèche, de l'origan, un peu de racines de lazare, mouillez de garum, ajoutez des cervelles cuites, des œufs crus, de la semoule cuite et du jus de cuisson, des petits oiseaux si vous en avez, des pignons et du poivre en grains. Amalgamez avec du garum. Remplissez le porcelet de cette farce, fermez-le avec du papier et agrafez. Mettez au four, après cuisson, défaites-le, arrosez d'huile et servez.
Et nous sommes en ligne avec Mireille Cherubini. Bonjour madame.
Bonjour Caroline, bonjour Dimitri.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de ce livre « Latin de cuisine », un livre de gastronomie romaine inspiré de l'art culinaire de Marcus Gavius Apicius. On vient d'entendre un extrait d'une recette du porcelet deux fois farci, lu par le comédien Daniel Königsberg. C'était un extrait de « La fabrique de l'histoire » en 2017 sur France Culture. Apicius était né en 25 avant Jésus-Christ. C'était en fait le cuisinier officiel de l'empereur Tibère, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça. C'est pour cela que ces recettes sont des recettes plutôt d'apparat, des recettes de quénat, de banquets, de riches banquets.
On n'a pas pris la recette du porcelet deux fois farci au hasard. Il me semble, Mireille Cherubini, que les Romains aimaient bien les farces. Ils farcissaient beaucoup leur mets.
Oui, on a plusieurs recettes de mets farcis, comme le thon farci, par exemple, avec une sauce aux dattes. Et tout ce qui est salaison aussi était très important. Hein. C'est aussi parce que le porc était une viande très très prisée, très utilisée, mais surtout parce qu'on pouvait aussi en faire des tas de salaisons. Dimitri en a parlé tout à l'heure. Toutes les parties du porc pouvaient être utilisées et on avait des salaisons, notamment les salaisons des Cavards. Les salaisons d'une petite ville près de Saint-Rémy de Cavaillon étaient très prisées.
Vous avez ouvert, Mireille Cherubini, une taberna romana dans le sud de la France, d'où vous nous parlez actuellement. Bon, c'était un restaurant, maintenant c'est devenu un traiteur hein, depuis quelques années. Et vous proposez uniquement des plats de la Rome antique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui. Ah oui, uniquement. En fait, je n'ai pas ouvert un restaurant. En fait, ça s'est passé un petit peu à l'envers. J'ai été nommée sur un site archéologique pour m'occuper de la petite buvette et j'ai transformé cette buvette grâce aux archéologues qui étaient là, qui m'ont soutenue et stimulée pour recréer ces recettes. D'ailleurs, les archéologues sont toujours très curieux et très stimulants pour mon travail. Je sers la cuisine romaine. Je propose aussi des ateliers pour les scolaires. J'ai une gamme de produits qui est vendue dans les boutiques de musées. Peut-être les premiers produits de bouche qui ont été vendus dans les boutiques de musées. Enfin, bon, j'ai créé un métier en fait qui n'existait pas vraiment et qui me donne à faire des choses très différentes. Et moi en fait. Contrairement à Dimitri, je suis une perita, donc je connais par expérience. Hein, en latin, c'est celui qui sait par expérience. Et donc moi, je donne à goûter, en fait. Je me suis proposée de donner à goûter. À l'époque, sur le site, un des visiteurs m'a dit « Vous donnez du goût aux pierres ». Et en fait, oui, c'est ce que je fais.
Donner du goût aux pierres, c'est joliment dit, en effet. Mireille Bini, oui. On trouve dans votre livre « Latin de cuisine » beaucoup de recettes qui contiennent quelque chose qu'on trouvait beaucoup à l'époque romaine, mais qui me semble avoir disparu. C'est le garum. Qu'est-ce que c'est que ça, le garum ?
Oui, le garum. Donc, c'est un condiment, garum. En fait. C'est un condiment de poisson macéré au sel. Donc, notamment du maquereau. Donc, ça donne un suc noirâtre. Il y a le substrat qui est l'alec, mais le suc noirâtre est un condiment qu'on trouve dans la plupart des recettes, même dans certains desserts. Et sur toutes les tables et surtout dans le commerce, en fait, dans les fouilles d'Arles, par exemple, on a trouvé énormément d'amphores contenant du garum. Et par exemple, il y a une amphore flosse de garum, fleur de garum sur le Tituli Picti. Donc il y avait des terroirs, des millésimes de garum. C'était quelque chose de vraiment très important. Et sur le pourtour méditerranéen, nous près de Salins de Giraud, nous avons encore des fosses où macérer ce garum. En fait, pour donner une idée, c'est vrai que ça ressemble au Tiokmam. En fait, ce ne sont pas les mêmes poissons puisque ce ne sont pas les mêmes mers, mais c'est exactement la même technique, mais nous l'avons perdue. Enfin, ça revient. J'aurai bientôt du garum en vente dans ma gamme de produits. Aha. C'est quand même la symbolique. Mon enseigne, j'ai choisi une fiole à un urceus, une fiole à condiments, une fiole à garum, bien sûr, puisque c'est vraiment la symbolique de la cuisine romaine.
Et je le disais, de nombreuses recettes qu'on trouve dans l'exposition à Lyon en ce moment sont extraites de votre livre Latin de cuisine, dont les dattes rôties, par exemple, dont nous mettrons la recette sur notre site internet. Merci beaucoup, Mireille Cherubini. Taberna Romana, donc, c'est votre restaurant traiteur maintenant depuis quelques années. Oui, voilà. Cette exposition. Merci beaucoup Mireille Cherubini. Cette exposition Dimitri Tillois d'Ambrosi, qu'on peut donc voir virtuellement en ce moment à Lyon, est une sorte de balade dans l'alimentation romaine qui va du marché à la taverne dont on a parlé en passant par la salle à manger. Vous nous faites très rapide présentation de ces trois endroits. Le marché, la taverne, la capona, vous l'avez dit. Le marché, concentrons-nous sur le marché. Qu'est-ce qu'on trouvait sur les étals des marchés il y a 1800 ans ?
Alors, sur les marchés des villes romaines, évidemment, tout dépend de la région où on se trouve, selon qu'on soit sur la côte,
par exemple.
Donc, évidemment, en premier lieu, on a beaucoup de produits qui viennent des terres de la cité, donc des ceintures maraîchères, par exemple, et des exploitations. Donc, on va trouver, évidemment, beaucoup de légumineuses, de céréales, de légumes, comme on le disait tout à l'heure. La viande y tient une place importante. Alors, une viande qui peut venir, évidemment, des fermes aux alentours, mais surtout de la viande qui peut être aussi issue du sacrifice. Lors du sacrifice, on peut parfois abattre des quantités très importantes d'animaux et leur viande peut être vendue sur les marchés. Mais également des poissons, des fruits, des conserves. En réalité, on peut trouver une multitude de produits assez importantes.
Et on peut se faire sa propre idée en allant donc pour l'instant voir cette exposition de façon virtuelle, très bien faite, sur le site de Lugdunum, le théâtre antique romain de Lyon. L'exposition s'intitule « Une salade César ». Nous mettrons bien sûr le lien sur notre site. Votre livre à vous, ça s'intitule « L'Empire romain par le menu » et c'est passionnant aux éditions Arquet. Et puis on a cité donc le livre de Mireille Cherubini, « Latin de cuisine » qui est en vente sur le site taberna-romana.com. Merci beaucoup, Dimitri Tillois d'Ambrosi, d'être venu ce midi.
Merci beaucoup à vous.
Et bien sûr, les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis et nos techniciens, nos techniciennes du jour de France Culture et du Théâtre de la Ville sous la houlette de Francesca Fossati et de Wojciech Noiret. Nous vous souhaitons un excellent dimanche.